Bienvenue, bienvenue pour cette émission de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Nous abordons un des sujets les plus importants pour la photo numérique dans cette émission, c'est la conservation des photos et des vidéos. Nous dépensons tous pas mal d'argent en matériel photo, en boîtier, en objectif, en flash, et puis à l'ordinateur, les logiciels, les tirages. Et c'est vrai qu'il ne reste peut-être pas nécessairement beaucoup d'argent pour les disques durs ou les CD-ROM. Et pourtant c'est essentiel, perdre des photos, qu'il s'agisse de photos professionnelles réalisées donc pour un client avec perte d'argent, perte de crédibilité, qu'il s'agisse de photos personnelles, perdre les photos d'une naissance, d'un anniversaire, d'un voyage, voire les photos de toute une vie, bah, c'est toujours un petit drame. Perdre des photos créatives, c'est peut-être le moins pénible au final, mais c'est quand même un drame parce que c'est son travail qui disparaît. Toutes les semaines, Déclencheur vous propose d'excellentes émissions sur la photo.
Avec Benoît Marchal.
À télécharger et écouter où vous voulez, quand vous voulez. Pour être averti de la sortie de nouvelles émissions et pour beaucoup de contenus supplémentaires, inscrivez-vous gratuitement sur www.déclencheur.com. La dernière émission de Déclencheur sur ce sujet date d'août 2006. En 5 ans, les supports ont changé, les outils ont changé, donc il était plus que temps de se rafraîchir les idées. Première chose, il faut faire une différence entre l'archivage et la sauvegarde. La sauvegarde, on sait tous ce que ça veut dire. Je fais une copie de mes fichiers, donc s'il y a un problème, je peux les récupérer. L'archivage, c'est ça bien sûr, mais c'est beaucoup plus que ça. La sauvegarde, c'est un peu tout de suite, c'est l'instantané. J'ai un problème avec les fichiers, je les récupère. Alors que l'archivage s'inscrit dans une perspective historique, c'est se dire, est-ce que dans 10 ans, est-ce que dans 20 ans, je pourrai toujours tirer cette photo ou regarder ce film ? Ce n'est pas si énorme que ça, 20 ans pour une photo. Prenez un simple album photo et vous trouverez des images qui ont plus de 20 ans. C'est un problème autrement plus compliqué que la simple sauvegarde, parce que ça comprend tous les problèmes de la sauvegarde, plus des problèmes complémentaires. Comme par exemple, dans 20 ans, est-ce que j'utiliserai toujours les mêmes logiciels qu'aujourd'hui ? Vraisemblablement que non. Or, si vos photos sont sur votre disque dur, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. D'abord la mauvaise, vous allez les perdre. Demain, dans un an, dans 5 ans. Mais un jour, votre disque dur va planter. Vous allez faire une fausse manip, avoir un virus. Le disque va tomber. Bref, vous allez perdre vos photos. La bonne nouvelle, c'est que si vous ne pouvez pas éviter un incident avec votre disque dur, vous pouvez quand même protéger vos photos. Il y a deux niveaux qu'il faut apprendre à gérer. Il y a une série d'aspects techniques. Combien de disques durs? Est-ce qu'il faut un RAID? Comment faire les copies? Quel format? Ce sont de bonnes questions. Et les réponses ne sont pas nécessairement immédiates. Mais le plus important à mes yeux, c'est d'établir une routine et une routine réaliste. Si la conservation ne devient pas une routine, si elle ne rentre pas dans votre train-train quotidien, si ce n'est pas automatique, ben vous n'allez pas le faire. Et j'insiste sur une routine réaliste, c'est-à-dire une routine, on peut donner des réponses techniques extrêmement sophistiquées, mais elles vont être si compliquées au quotidien que vous allez bien vite vous décourager. Et ça, c'est ce qui peut arriver de pire. Au contraire, il faut que ce soit une seconde nature. Donc je ne vous invite pas dans cette émission à découvrir des réponses toutes faites, mais plutôt à puiser dans une expérience et à l'adapter à votre réalité. Il est évident que les choix vont dépendre de vos goûts, de vos habitudes de travail, de la quantité de photos ou de films que vous réalisez. Tout au long de l'émission, je vous ai mis des petits extraits des manipulations où je clique ma routine. Sachez qu'elle est adaptée à mes habitudes, à mon volume de photos et de vidéos, mais ne la prenez pas pour argent comptant, ajustez-la. Il faut aussi faire la part des choses, tous vos fichiers n'ont pas vocation à être conservés. Par exemple, si je perdais mon CV, ce serait embêtant, mais ce ne serait pas bien grave, je vais simplement le réécrire. Et de toute façon, c'est vraiment pas le document que j'aurais besoin de relire dans 10 ans. Donc il faut identifier les fichiers que vous souhaitez conserver. Peut-être que toutes vos photos n'ont pas besoin d'être conservées. Il y a ce tri à faire. Mais je pense que tout le côté souvenir de la photo, naissance, voyage, ce sont des photos qu'on ne peut pas refaire. On ne peut pas refaire une naissance parce que le disque dur a craché, il faut refotographier. Donc il est important de mettre ces photos à l'abri. La routine la plus simple, si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec la technique, c'est de tirer les photos. Les tirages résistent pas mal au temps. D'ailleurs, à l'époque de l'argentique, on ne se posait pas trop ces questions. Oui, les couleurs sont un petit peu délavées par le temps, mais globalement, la photo reste lisible. Les tirages chimiques résistent pas mal à l'eau, aux chutes, et on ne les vole pas. Parce que c'est aussi un des problèmes des disques durs. Ça se vole, il suffit de le reformater pour le revendre, alors que les photos, bah, sauf à avoir des tirages d'art, ça ne se volait pas. Les risques avec un tirage sont donc nettement réduits. Il n'y a à peu près que l'incendie qui peut poser problème. Maintenant, si vous voulez conserver vos fichiers, et donc être capable de retirer vos photos, alors il faut mettre en place une solution de conservation et d'archivage. La conservation des images, ça démarre dès la prise de vue. Les cartes sont fiables aujourd'hui, mais il n'empêche que je démarre toujours en reformatant la carte. Je démarre sur une carte propre, ça simplifie beaucoup de choses par la suite. Je shoote en JPEG plus RAW. Le RAW, c'est le format de travail, et le JPEG, c'est une version de l'image dans un format documenté. C'est malheureusement pas le cas avec le RAW de ce boîtier. Pour conserver une photo, il faut d'abord pouvoir la relire. Donc, d'abord acheter de bonnes cartes, des cartes fiables, des cartes d'une bonne marque. Ensuite, les remplacer en cas de problème. Une carte, surtout une carte SD, ça peut casser. Donc il faut la remplacer. Les fabricants proposent des cartes de plus en plus rapides et elles sont aussi de plus en plus chères. Moi, je pense que ça ne vaut pas la peine d'acheter ces cartes très chères. Après tout, à quoi ça sert une carte rapide? Ça accélère les grandes rafales. Et en vidéo, ça permet de compresser moins les images. Mais quel est votre besoin réel? Les mémoires tampons des appareils sont telles qu'en pratique, une carte compact flash de type 100 fois ou en format SD, les cartes classe 6 sont largement assez rapides pour moi, y compris pour faire des rafales en RAW, y compris pour faire de la vidéo. Et comme ces cartes sont bien moins chères que les cartes plus rapides, eh bien je préfère les acheter et savoir que s'il y a un problème, je la remplacerai plus facilement. Je reformate systématiquement mes cartes avant une prise de vue. C'est une habitude que j'ai prise il y a quelques années, à une époque où les cartes n'étaient pas aussi fiables qu'aujourd'hui et donc on avait parfois du mal à les relire. C'est devenu rare d'avoir un problème avec la carte elle-même, mais une mauvaise manipulation, par exemple, peut effacer par erreur des fichiers. Alors heureusement, il y a des logiciels qui seront capables de récupérer vos fichiers, mais sachez qu'ils fonctionnent beaucoup mieux si la carte a été reformatée au lieu d'avoir effacé les fichiers. Donc, on n'efface pas les fichiers, on reformate. Je vérifie que l'appareil est bien en RAW plus JPEG. Le RAW, c'est pour la qualité d'image, mais le problème du RAW, c'est la conservation dans le temps. Voyez, la difficulté de l'archivage par rapport à la sauvegarde, c'est que nous n'avons pas de boule de cristal. On ne peut pas prédire l'avenir, donc on ne sait pas comment on traitera les RAW à l'avenir. Aujourd'hui, c'est facile, hein, je prends mes photos en RAW, j'utilise Lightroom, tout va bien. Il y a d'autres logiciels comme Aperture, Bibble ou DxO, peu importe. Mais les logiciels, ça va et ça vient. Il y a 5 ans, quand j'ai enregistré la première émission sur l'archivage, je n'utilisais pas Lightroom. D'ailleurs, il n'existait pas encore. Peut-être que dans 5 ans, j'utiliserai autre chose. Alors si on se projette à 20 ans, bah dans 20 ans, nos photos, elles seront sans doute plus sur un disque dur, mais elles seront stockées dans le nuage. On y accédera peut-être via notre téléphone, mais avec quel logiciel? Je ne sais pas. Et comme je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas certain que ces formats RAW que j'utilise aujourd'hui seront toujours supportés par ces logiciels demain. Bien entendu, quand j'écoute le discours commercial, tout va bien, j'ai tort de m'inquiéter. Jamais, au grand jamais, on ne m'abandonnera, moi et mes fichiers RAW. Sauf que moi, je ne compte plus le nombre de produits dont on m'avait promis une monts et merveilles et qui ne fonctionnent plus après quelques années. Alors que faire? Il y a beaucoup de réponses possibles. Certaines personnes vous disent qu'il faut utiliser des logiciels libres. C'est très bien, mais qu'en sera-t-il dans 20 ans dans le nuage? Moi, j'en reste au principe de l'informatique. Et les principes de l'informatique, c'est qu'il faut enregistrer ces données, pour de l'archivage, dans un format documenté. C'est-à-dire un format dont on peut télécharger les spécifications techniques. On va peut-être payer une licence en droit pour accéder à ces spécifications techniques, mais elles sont complètement disponibles. Et malheureusement, ce n'est pas le cas des fichiers RAW, à l'exception du DNG qui est utilisé par Hasselblad, Leica, Pentax et Ricoh. Donc le RAW, c'est plutôt mal parti. Alors je prends un fichier RAW, parce que quand même la qualité est meilleure, et à côté, une copie JPEG pour le cas où. Et le format du JPEG, lui, c'est bien un format publié. En photo, il est un peu tôt pour vraiment juger de ces problèmes de conservation. C'est difficile de se projeter à 10 ans alors que la plupart d'entre nous ne pratiquions pas encore la photo numérique il y a 10 ans. Donc si vous voulez un retour d'expérience concret sur ce sujet, je vous renvoie à une émission de mai 2008 avec Michel Lessourd. Michel Lessourd est un de mes clients, il n'est pas photographe, il est expert comptable, mais il a beaucoup travaillé sur l'archivage des documents. Et la comptabilité, elle a été informatisée bien avant la photo, donc ils ont eu largement le temps d'acquérir toute cette expérience sur les problèmes de conservation des fichiers. Et Michel a des paroles qui font réfléchir.
À part évidemment tout ce qui est édition papier qu'on peut lire, tout ce qui était mémorisé d'une façon magnétique, on ne peut plus les lire. J'en ai fait l'expérience encore dernièrement, je ne peux pas relire mes disquettes 3 pouces, 5 pouces et 8 pouces parce que ou on ne trouve plus les drivers, ou on ne trouve plus les formats de fichiers, ou on ne trouve plus le système d'exploitation qui permette de pouvoir lire. Donc on a vraiment des gros problèmes. Donc assez tôt, on s'est penché sur le problème de conservation de ces informations. On s'est aperçu qu'il fallait désolidariser les données des programmes qui les ont fournis. Ça, c'était le premier point. Mais le deuxième point, il fallait également ne pas du tout se préoccuper du support qu'on allait utiliser. Il fallait vraiment qu'on soit complètement étanche vis-à-vis du support. Parce que les supports d'il y a 10 ans, je ne peux plus les utiliser aujourd'hui. Et les supports dans 10 ans, je ne les connais pas encore. Donc on a vraiment un problème où on est constamment en migration. Donc si on veut vraiment conserver à long terme, à moyen et long terme, des formats, quels qu'ils soient, que ce soit de la comptabilité, des photos ou autre, peu importe, il faut vraiment qu'on soit pérenne dans des standards internationaux, parce que ça au moins c'est fixe, c'est stabilisé, mais également de se sécuriser en matière de support.
Son expérience est que les fichiers créés par des logiciels avant que les formats de fichiers ne soient normalisés, ne soient publiés, eh bien on constate que seules les copies papier sont encore lisibles. Est-ce que ce sera le cas pour nos fichiers RAW? Je n'en sais rien, mais par sécurité, je prends dès la prise de vue une copie en JPEG. De retour sur le Mac, j'importe la carte dans ma bibliothèque Lightroom. La copie se fait sur un robot. Ensuite, j'éjecte la carte et j'organise mes photos. Notez que j'importe les fichiers RAW dans le format d'origine, je ne les convertis pas en DNG. J'utilise toujours un lecteur externe pour transférer des photos, tout simplement parce que ça va plus vite que de brancher un câble USB sur l'appareil. Un des avantages des cartes SD par rapport au Compact Flash, c'est d'ailleurs que les Mac ont un lecteur intégré. J'utilise Lightroom pour importer les photos. J'importe toujours sur le même disque, j'ai un disque externe qui ne sert que pour les photos et les vidéos. C'est un robot, je vous en ai parlé dans une émission il y a quelques semaines. En règle générale, je préfère importer toutes les photos de la carte. Certains photographes trient les photos et n'importent que les bonnes photos. C'est sans doute une bonne idée quand on a vraiment énormément de photos, mais ce n'est pas mon cas. En fait, depuis 2003, je n'ai que 600 mégas de photos. Donc, j'importe tout, et plus tard, je rendrai invisibles les photos qui ne m'intéressent pas. J'importe tout simplement pour éviter les erreurs. Je veux être certain de ne pas oublier une photo par mégarde. Certains photographes convertissent le RAW propriétaire en format DNG durant l'importation. C'est une option de Lightroom. Je ne le fais pas et je ne le conseille pas. De nouveau, personne n'a de boule de cristal, mais je préfère archiver le fichier d'origine de mon appareil photo, et ça pour une raison très simple. Le logiciel de développement de la marque Nikon, Canon, Olympus, Sony ne peuvent lire que les fichiers produits par leur boîtier. Lightroom et presque tous les autres logiciels peuvent lire évidemment les fichiers d'origine ou des fichiers DNG. Donc en convertissant en DNG, on ne peut plus utiliser le logiciel de la marque. On est obligé d'utiliser un autre logiciel. Par contre, en conservant les fichiers d'origine, on peut utiliser le logiciel de la marque et tous les autres. Donc qu'est-ce qu'on gagne à convertir en DNG ? Absolument rien. Par contre, on perd la compatibilité avec un logiciel. C'est pas souhaitable. Donc je préfère conserver le format d'origine. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus le logiciel de la marque. Et peut-être que ce jour-là, oui, effectivement, il faudra passer par le DNG. Mais aujourd'hui, on ne gagne rien. Et on perd même un logiciel. Donc je ne le fais pas. C'est toujours ce principe de prudence. On ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ou 20 ans. Donc on essaie de se garder le plus de possibilités. Les vidéos, c'est plus compliqué parce que Lightroom ne gère pas tous les formats vidéo. Comme c'est un format que Lightroom gère, par exemple si j'ai filmé avec ma Zoom Q3 HD, alors je range la vidéo comme si c'était une simple photo. Par contre, avec ce boîtier qui enregistre en AVC HD, eh bien là je dois prendre une archive de la carte dans Final Cut Pro 10 ou dans iMovie.
Pour les vidéos, c'est plus ou moins la même chose, mais avec deux différences. D'abord, Lightroom ne gère pas tous les formats de fichiers vidéo, et en particulier, il ne gère pas les fichiers AVC HD. Donc ceux-là, je dois les importer via iMovie ou via Final Cut Pro 10. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble qu'AVC HD est appelé à disparaître. Mais bon, en attendant, il faut encore vivre avec pendant quelques temps. Deuxième différence, les fichiers sont beaucoup plus gros. Mais alors vraiment beaucoup plus gros. Même en comparant du RAW avec de la vidéo fort compressée, la vidéo prend beaucoup plus de place. Donc là, je fais un tri à l'import. Souvent, il y a des essais, des prises qui ne sont pas bonnes. Celles-là, je les importe tout simplement pas.
Ensuite, je retire la carte et je branche un disque de sauvegarde sur lequel je réalise une copie complète de tout mon disque de travail. Et donc, en particulier, des nouveaux fichiers que je viens d'importer. J'utilise pour ça un logiciel que je trouve assez pratique, qui s'appelle Smart Backup, et il y en a beaucoup d'autres. J'aime bien Smart Backup parce qu'il est très simple et il fait automatiquement une copie des seuls fichiers qui ont été modifiés. Et puis, vraiment, son interface est très dépouillée.
Le principe de base de la conservation, bien entendu, c'est de faire des copies. Ainsi, si un fichier est perdu, on peut le récupérer depuis la copie, tout simplement. Malheureusement, il y a une question qu'on me pose encore beaucoup trop souvent. Mes photos étaient sur mon disque dur et ce disque est tombé en panne. Il y a un virus, encore on me l'a volé, que faire ? Dans le cas du vol, malheureusement, c'est fichu, parce que si on retrouve le disque, vraisemblablement, il aura été effacé. Le virus, ça dépend du virus, mais il faut voir avec les utilitaires antivirus. Par contre, le disque en panne, on peut la plupart du temps retrouver les données. Il y a même quelques sociétés qui se spécialisent dans la récupération de disques durs. Le problème, c'est que ça coûte cher. Mais ça peut coûter vraiment très cher. Dans le pire des cas, un réflexe professionnel et les optiques qui vont avec. Et vous n'êtes pas certain qu'on pourra tout récupérer. Mais parfois, pour certains disques, c'est la seule solution. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'une simple paire de disques de sauvegarde, en comparaison, ça ne coûte vraiment pas très cher. Ça évite le stress. Et donc, c'est évidemment la solution que je vous conseille, mais il faut s'y prendre avant d'avoir le problème. Aujourd'hui, je réalise toutes mes copies sur disque dur. Pendant plusieurs années, j'ai fait des copies sur CD-ROM. Et puis des CD-ROM, je suis passé au DVD. Et maintenant, je suis passé au disque dur parce que, étonnamment, ça revient moins cher en mégaoctets, en tout cas pour de gros volumes. Le principal avantage des disques durs, c'est qu'ils sont beaucoup plus rapides à utiliser que les DVD. D'abord, les copies de fichiers sont plus rapides, et puis il ne faut pas ouvrir la pochette, insérer un disque, lancer la gravure, sortir le disque, le ranger. Et puis, si on ne veut pas que ça coûte trop cher, il faut attendre d'avoir assez de photos pour remplir un DVD pour faire ça. À l'inverse, quand on a fait beaucoup de photos, il faut parfois graver 2 ou 3 DVD. Le disque dur, on le branche, c'est fini. Comme c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple, j'avoue que je respecte mieux ma routine. Comme je le disais, c'est très important de respecter la routine parce que c'est comme ça que les photos sont en sécurité. Malheureusement, les disques durs sont aussi beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus fragiles que les DVD ou les CD-ROM. Physiquement, ils sont plus fragiles. Et puis, comme on réécrit sans arrêt sur le même disque, s'il y a un problème dans une des écritures, on peut tout perdre. Alors qu'avec un DVD, un problème ne concernera que les 4 gigs de données. Donc, si vous avez plutôt des petits volumes, c'est vrai que les DVD, ça reste économique et quelque part, c'est plus rassurant. Mais comme j'ai déjà expliqué, je crois qu'il est vraiment important d'acquérir une routine. Et le risque avec les DVD, c'est de se dire, je le graverai demain. Et si vous laissez ainsi les fichiers s'accumuler, ben, vous n'êtes pas en train de les sauvegarder. Mon astuce, quand j'archivais sur DVD, c'était d'acheter des cartes de la taille d'un DVD, donc des cartes de 4 gigs. Et donc, si j'avais fini une carte, ben, j'avais un DVD prêt à être archivé. Le disque dur, c'est beaucoup plus confortable. On copie sur une petite carte, on copie une grosse carte, ben, c'est pas un problème. Et donc, si vous êtes un photographe actif, moi, je vous conseille vraiment la sauvegarde sur disque dur. Pour ça, il faut au moins 2 disques de sauvegarde. Donc, ça fait au moins 3 disques en tout. On va en reparler dans un instant. Il y a beaucoup de logiciels pour faire la copie. Moi, j'ai opté pour le logiciel le plus simple que j'ai pu trouver, avec toujours la même idée. Plus il sera facile à utiliser, plus je vais m'en servir. Et ça, c'est le plus important pour moi. Au début, je recopiais même ces fichiers moi-même, directement depuis le Finder. Bon, Lightroom a tendance à créer des répertoires et des sous-répertoires, et c'est plus facile d'avoir un logiciel qui ne recopie que les nouveaux fichiers. Pendant la sauvegarde, j'organise les photos, mais je vais vous faire un aveu. J'organise assez peu mes photos. Je mets un titre, presque jamais de mots-clés, une description assez succincte, puis je les range dans un groupe assez large. Certains trouveront que ce n'est pas idéal, que je devrais mieux commenter. Mais je trouve que dans Lightroom, la recherche visuelle, c'est-à-dire parcourir tout simplement les photos en zoomant sur la grille, disons que ça correspond plus à la manière dont ma mémoire fonctionne. À propos, Lightroom est configuré pour réaliser une sauvegarde automatique de sa base de données toutes les semaines. Si les CD-ROM et les DVD ne sont plus franchement à la mode, la sauvegarde en ligne par contre se développe. L'idée est assez tentante. On stocke ses fichiers dans le nuage, soit auprès d'un service spécialisé comme Flickr, Darkroom ou Picasa, soit auprès d'une solution de stockage dédiée comme iCloud ou Walla de la CIE. Sur le principe, c'est très attractif. Hein. On a une copie de ses photos dans un espace sécurisé, il n'y a quelque part plus à s'en occuper, mais il y a quand même quelques limites. Moi, j'en vois 4 en particulier. La première, c'est la lenteur. Télécharger les photos, ça peut occuper la connexion Internet pendant quelques heures. Alors, bien entendu, ça dépend de la vitesse de votre connexion et du nombre de photos, mais il faut en tenir compte. Le deuxième problème, c'est que tous les services n'acceptent pas tous les formats. Certains services ne gèrent pas le RAW, par exemple. Le troisième, c'est que les services de galerie, ça va, ça vient. Ils ouvrent, ils ferment, et parfois, quand ils ferment, vous n'avez que quelques jours pour récupérer vos photos. Le quatrième, c'est la propriété et la confidentialité des photos. Les services payants, a priori, sont sûrs. Encore que, il y a quelques horreurs qui circulent sur Internet. Les services gratuits, par contre, c'est plus discutable. Au minimum, lisez très attentivement les conditions d'utilisation. Néanmoins, il me semble évident que dans les prochaines années, le nuage va remplacer les sauvegardes sur disque dur, tout comme le disque dur a remplacé les CD-ROM. Mais aujourd'hui, je pense qu'un photographe amateur et plus encore un vidéaste a tout simplement trop d'images pour les stocker ainsi. Donc, aujourd'hui, soit on ne va stocker que ses meilleures photos dans le nuage, soit on n'y stocke que les versions JPEG et on se garde les RAW sur ses disques durs. En cas de problème avec son disque local, bah, au moins on pourra récupérer les JPEG.
Maintenant, j'ai donc 2 copies de mes images, une sur le disque de travail, une sur le disque de sauvegarde. Je peux donc tout simplement réutiliser la carte.
Je n'utilise pas de RAID comme outil de sauvegarde. Depuis que j'ai lancé Déclencheur en 2006, je n'arrête pas de répéter que le RAID n'est pas en soi un outil de sauvegarde. C'est très bien le RAID, et les versions les plus modernes du RAID, comme le Drobo par exemple. D'ailleurs, j'utilise un Drobo, mais ça ne remplace pas une sauvegarde, ce n'est pas un outil de sauvegarde. Les fabricants de RAID, d'ailleurs quand ils sont honnêtes, ne disent pas autre chose. Et depuis 2006, je reçois 2 types de messages. Le premier c'est « moi j'ai un RAID, donc j'ai pas besoin de m'embêter avec tous ces trucs de sauvegarde ». Et quelques années plus tard, malheureusement, je reçois un autre message me disant « j'ai tout perdu ». Il y a plein de bonnes raisons d'installer un RAID, y compris un RAID 1, c'est-à-dire les 2 disques en miroir. Mais se dispenser d'une sauvegarde parce qu'on a un RAID, c'est une très mauvaise idée. Il y a énormément d'incidents qui peuvent intervenir sur un RAID, y compris un RAID 1. Et si vous n'avez pas de copie de sauvegarde, eh bien vous avez tout perdu. Croyez-moi, même si on vous annonce que les pourcentages de défauts sont très faibles, ça arrive régulièrement. J'ai le courrier de Déclencheur pour le prouver.
Tous les 2 mois environ, je remplace mon disque de sauvegarde par un autre disque. Un autre disque que je conserve dans la famille, et sur lequel se trouve également une copie de tous les fichiers. Donc normalement, les 3 disques ne sont jamais ensemble. Il y en a toujours au moins un disque de sauvegarde, qui reste dans un autre bâtiment.
C'est peut-être le plus difficile à comprendre, mais c'est important. Pour le moment, j'ai 2 copies du fichier, donc avec mes 2 disques durs. Or, il faut 3 copies. Je le répète, un disque de travail, 2 disques de sauvegarde, ça fait 3 disques en tout, au minimum. Le principe, c'est que les 2 disques de sauvegarde ne peuvent jamais être connectés à la machine en même temps. C'est pour ça qu'il en faut 2. Parce que contrairement au CD-ROM, qu'on ne peut pas effacer par accident une fois qu'il a été gravé, le disque dur, chaque fois qu'on le connecte à la machine pour refaire une archive, eh bien, on met en péril tout son contenu. Un virus, une erreur de manipulation, la foudre, un dégât des eaux, tout ça peut détruire tous les disques qui sont connectés à une machine. Et donc, on pourrait perdre le disque de travail et le disque de sauvegarde en même temps. C'est comme ça d'ailleurs que les RAID tombent en panne. Donc, on va utiliser 3 disques et on n'en connecte jamais que 2 à la machine à un moment donné. Il y a le disque de sauvegarde courant, qui contient la dernière version de l'archive, et une deuxième archive qui fait que, si je perdais la version courante, eh bien il me reste au moins la version précédente. Et je vais perdre tout au plus quelques semaines. Évidemment, et c'est très important, on ne branche jamais, au grand jamais, les deux disques d'archives en même temps. Donc avant d'en brancher un, on débranche l'autre. C'est pour ça que j'aime bien prendre le même modèle, ils sont parfaitement compatibles. En l'occurrence, ce deuxième disque de sauvegarde, je le range hors de chez moi. Et je fais un aller-retour à peu près tous les deux mois. Au minimum, rangez-le dans une autre pièce que l'ordinateur. Et je ne veux vraiment pas être un oiseau de mauvais augure, mais il y a un risque de vol. Personne ne volait les albums photos, mais quand un voleur emporte l'ordinateur, il prend souvent tous les disques externes qui sont autour. Dans cette émission, j'ai beaucoup parlé de copie, mais j'ai moins insisté sur l'aspect d'archive. C'est-à-dire conserver les photos non pas au-delà d'un incident isolé, mais pour 10, 20 ans et au-delà. Malheureusement, pour l'archive, il n'y a pas de routine. Comme je l'ai déjà dit, il faut réfléchir au format qu'on utilise, et par ailleurs, il faut régulièrement suivre l'évolution technique. Par exemple, il y a quelques années, j'enregistrais sur CD-ROM. Quand les disques durs sont arrivés, il a fallu recopier tous ces CD-ROM sur un disque dur. Inutile de vous dire que c'était terriblement fastidieux, mais bon, on ne peut pas y couper. Le numérique apporte beaucoup de confort et de souplesse, mais de temps en temps, il faut faire une migration des données. La conservation de nos photos est à ce prix. Pour être averti de la sortie de nouvelles émissions et pour beaucoup de contenus supplémentaires, inscrivez-vous gratuitement sur www.déclencheur.com.